Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Première nuit, Ernest Hemingway. Bonsoir à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour la première des deux nuits que nous consacrons à Hemingway. Il y a tout juste 60 ans cette année, Ernest Hemingway décidait que le moment était venu de mettre un terme à son existence biologique et à sa production littéraire d'un coup de fusil. Tout, sans doute, avait été dit, même si tout n'avait pas encore été publié. Depuis, qu'est devenu Hemingway ? Comment son œuvre lui a-t-elle survécu jusqu'à aujourd'hui ? Comment la légende et la mauvaise réputation qui collaient déjà à ses basques de son vivant ont-elles accompagné sa postérité d'écrivain ? En quoi le regard du public et celui des critiques ont-ils varié au fil des années ? C'est notamment ce que le programme d'archives des deux nuits que nous lui consacrons nous permettra d'explorer en rappelant ce que fut l'apparition d'Hemingway dans la littérature et ce qui fait la spécificité de son œuvre depuis ses premières nouvelles jusqu'à ses romans posthumes. Pour cela, nous serons en compagnie de deux amoureux de l'écrivain, Guy Scarpetta, que nous retrouverons la semaine prochaine, et Gérard de Cortanze, qui est là aujourd'hui pour éclairer cette première nuit Hemingway. Bonsoir Gérard de Cortanze.
Bonsoir Alban.
Gérard de Cortanze, écrivain, mais aussi critique, traducteur, on vous doit de très nombreux ouvrages, romans, essais, mais aussi des recueils de poésie, pièces de théâtre. Éditeur également, directeur de collection dans différentes maisons, et vous avez écrit sur Hemingway, Hemingway à Cuba en 1997, et en 2011, le roman de Hemingway, nous aurons l'occasion d'en parler. Quand vous êtes-vous fait prendre à l'hameçon d'Hemingway, Gérard de Cortanze ?
C'est donc la première question. Le premier à m'en parler, c'est Carlos Fuentes. J'étais un très jeune poète qui pensait à l'époque que je n'écrirais jamais de roman. Et il m'en a parlé avec une telle ferveur, je vais avoir 17 ans, hein, 17-18 ans, que je n'ai eu que de cesse que de me plonger dans l'œuvre d'Hemingway. Et le premier livre d'Hemingway que j'ai lu, qui n'est pas son meilleur livre, mais qui n'est pas son plus mauvais, c'est « Le vieil homme et la mer ».
Selon vous, Hemingway serait un écrivain méconnu, célèbre mais méconnu donc ?
A totalement méconnu, c'est-à-dire il n'est pas connu pour les bonnes raisons. Et déjà de son vivant, il se plaignait de cela. C'est-à-dire Hemingway, c'est un peu comme Cocteau. Il envoyait des masques. D'ailleurs, il le théorise à plusieurs occasions dans ses écrits. Au fond, il envoyait ses masques en première ligne et il se cachait derrière eux. Et derrière eux, le véritable Hemingway pouvait exister et écrire tranquillement. C'est une des raisons pour lesquelles on y reviendra par la suite. Il est parti vivre à Cuba, où il a vécu pendant pratiquement 30 ans.
Dans cette première partie de nuit, nous entendrons de jeunes étudiants de 1970 parler des neiges du Kilimandjaro. Hemingway est-il encore lu en 2021 ?
Ah oui, j'espère bien. Son livre « Paris est une fête » alors a bénéficié d'événements extérieurs à la littérature, mais c'était un immense re-succès il y a quelques années. On n'a pas très bien compris d'ailleurs pourquoi tout le monde s'est jeté tout à coup sur ce livre-là. C'était « Paris est une fête ». À l'époque où Paris n'était plus une fête, on relit Hemingway. Mais là, il y a un certain nombre de lecteurs qui ont dû redécouvrir ou découvrir quelqu'un qui peut-être avait été oublié.
Hemingway, donc, prix Nobel de littérature, star parmi les écrivains du XXe siècle, le Paris des années 20, la guerre de 14-18, la guerre d'Espagne, la libération de Paris en passant par le Ritz, quatre mariages, la boxe, les safaris, la pêche au gros, des bagarres, une consommation d'alcool gargantuesque, sous toute latitude et sous toute forme de breuvage. Mais il faut aller chercher Hemingway de l'autre côté de la légende, écriviez-vous dans le roman de Hemingway. C'est ce que nous tâcherons de faire avec vous et en écoutant les archives de cette nuit. Mais avant cela, je vous propose que nous nous arrêtions d'abord sur la légende. Qui est ce personnage qui suit l'écrivain comme son ombre, un personnage qu'il a poursuivi même après sa disparition ?
Oui, d'ailleurs, lui-même... dit cela, il dit au fond qu'on arrête de parler de mes faits et gestes et qu'on parle de ma littérature. Parce que la littérature, dit-il, c'est une chose sérieuse. Et il cite très souvent Kipling, une phrase de Kipling qu'on pourrait mettre en exergue d'ailleurs de toute son œuvre. Il ne faut pas oublier qu'il était journaliste, Hemingway. Donc Kipling dit, c'est un conseil aux écrivains, procurez-vous vos faits, puis déformez-les. Et on constate que toute la littérature d'Hemingway, c'est ça. Il va se procurer ses faits, il va aller sur place les chercher. La guerre d'Espagne, la guerre 39-45, la guerre de 14. Et c'est très très intéressant. C'est ce que j'ai effectué pour écrire un des livres que j'ai publié sur Hemingway, de mettre en parallèle certains de ses articles et de voir ce qu'il faisait de ses articles dans ses romans, c'est-à-dire comment il transformait ses faits observés en choses littéraires et romanesques. Et là, c'est absolument passionnant. C'est intéressant de voir les glissements, ce qu'il conserve et ce qu'il fait de ces faits réels qu'il transforme.
Et quand la légende d'Hemingway devient-elle envahissante au point de quasiment faire passer l'écrivain et son œuvre à l'arrière-plan? Après le Nobel en 54 ou bien avant cela?
Tout de suite, dès Le Soleil se lève aussi, dès son premier livre, il est très très jeune et ça devient un succès énorme, immédiatement. Donc immédiatement, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à sa vie, évidemment.
Et il joue le jeu en même temps.
Oui, parce que c'est ce que je vous disais au début de l'émission, il se cache derrière ça. Il a très bien compris qu'il allait pouvoir utiliser ça aussi. Alors, je pense pas qu'il soit retors, c'est-à-dire on lui attribue beaucoup de défauts à Hemingway, mais je pense que c'est quelqu'un d'absolument authentique, de véritable. Il ne joue jamais. Ce sont les discours qu'on applique à sa personne, qui sont de l'ordre du jeu. Mais lui ne joue jamais, il est totalement vrai. Et donc, au fond, il va utiliser ça. Il va dire, très 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 bien, je suis tranquille, j'écris.
Et il a laissé dire, il en a rajouté, il a menti.
Il en a rajouté, il a menti, bien entendu. Et il provoque. Mais il explique très bien dans une interview qu'il a donnée dans les années 50 à un journaliste américain, qui dit, vous savez, Hemingway... arrive dans un café, dans un restaurant, immédiatement, il y a des colosses qui le provoquent pour voir comment il tape, comment il boxe. Alors parfois, il tombe dans le panneau parce qu'il a un peu trop bu, il boit beaucoup, c'est vrai. Parfois, au contraire, il refuse la bagarre, mais au fond, sa vie, c'est ça en permanence. Il doit faire face, au fond, à sa notoriété, mais qui était immense. Et c'était une notoriété dans les années 50-60. Imaginez ce que pourrait être sa notoriété aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout le système médiatique du monde en 2021.
Mais justement, Hemingway a-t-il été l'un des premiers écrivains à être autant exposé médiatiquement, comme on ne disait pas encore, à être aussi traqué?
Ça, je suis incapable de vous répondre, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à cette question. Toujours est-il qu'il a été traqué, comme a été traqué Frida Kahlo. Le couple Frida Kahlo-Diego Rivera, leur moindre fait et geste, et donc on est dans les années 30, immédiatement ça donnait lieu à des kilomètres d'articles. Tina Modotti, la photographe italienne qui va vivre au Mexique et qui est une des grandes photographes, du XXe siècle, ses moindres faits et gestes, ils sont immédiatement traqués et on en fait des kilomètres dans la presse à scandale et dans les journaux.
Et ce personnage, cette légende, ont contribué à le déconsidérer, à abaisser l'écrivain?
Totalement. Totalement, et c'est ce que je ne cesse de dire, c'est-à-dire que plongeons-nous d'abord dans son œuvre, c'est d'abord un écrivain, son rapport aux femmes, d'ailleurs qui est totalement faux, c'est-à-dire qu'on en fait une sorte de macho.
Mais nous y reviendrons tout à l'heure.
Voilà, qu'on lise ses livres, c'est absolument faux. Son rapport à l'alcool, à la boxe, à la chasse. Alors, je ne sais pas si on peut garder la chasse pour plus tard, mais sinon, je peux en parler dès maintenant. On remet ça dans le contexte. Alors, la chasse, il aimait tuer des éléphants, des gazelles, avec des lances et tout. Enfin, vous rendez compte, le péril, enfin bref. Bon, mais c'est à l'origine, c'est pas ça du tout. C'est qu'il a une enfance difficile, compliqué. Son père va se suicider. Ce père qui est médecin, sa mère qui est très catholique, qui fait partie d'une chorale. Ces gens s'entendent plus ou moins bien. Il est très 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 solitaire. Il est un peu malingre dans sa petite enfance. Et les seuls moments de bonheur qui sont les siens, c'est lorsque il va chasser avec son père. Alors, il y a une anecdote qui est assez amusante d'ailleurs. Sa mère lui offre un violon et son père, à l'âge de 10 ans, lui offre un petit fusil de chasse. Et ils vont sur le lac, ils sont à Chicago, ils vont sur le lac et ils vont à la rencontre des Indiens et ils passent des journées entières, sur leur canoë, à traverser des plaines, des forêts, à chasser pour se nourrir. Et en fait, pendant toute sa vie, il va rechercher ce bonheur-là. Et lorsqu'il va en Afrique, il recherche le bonheur de l'enfance. Il faut toujours replacer la chasse dans ce contexte. La boxe, il a appris à boxer à 14 ans pour se défendre. Parce que ses petits copains se moquaient de lui, parce qu'il dit il était maladif, et il en a eu assez. Il s'est dit « je vais me défendre ». Et il a commencé à boxer. Alors tout ça était un peu provocateur, bien entendu. Mais donc à chaque fois, il faut toujours replacer le toutes ces histoires, l'alcool et tout. On en reparlera. Mais tout ça, il faut toujours replacer dans une histoire sur la longueur, c'est-à-dire l'histoire d'une vie. Il faut pas détacher un événement comme ça et en faire un événement médiatique ou un article de journal ou une émission de télévision ou une émission de radio. Vous voyez, c'est il faut toujours replacer tout ça dans l'ensemble d'une vie qui est longue.
Pour vous, il y aurait deux mythes Hemingway, celui du personnage que l'on vient d'évoquer, mais aussi un mythe autour de l'écrivain, Gérard de Cortanze.
Oui, alors le mythe autour de l'écrivain, c'est que il y a un certain nombre d'écrivains qui vouent une passion sans borne pour Hemingway, qui disent au fond, Hemingway nous a appris l'écriture. Quelqu'un comme Paul Auster, ça va peut-être vous étonner, Paul Auster m'a parlé avec des larmes dans les yeux d'Hemingway. Fuentes m'a parlé des larmes dans les yeux d'Hemingway. Et c'est vrai que, en tout cas, le grand apport, à mon sens, d'Hemingway, c'est qu'il a vraiment un peu décrassé la littérature américaine de son temps, parce qu'elle était un peu empesée, et notamment dans l'art des dialogues. Il y a une façon d'expliquer qu'au fond, le dialogue, quand on écrit des dialogues, on ne fait pas de la littérature. Donc il essaie de coller son dialogue à la réalité de la vie, à l'existence, au chaos de l'existence. Et ça, il y parvient, notamment parce que, vous savez, il travaillait ses dialogues debout. C'est un peu le gueuloir de Flaubert. Donc, faut l'imaginer, notamment à Cuba. C'est tôt, c'est le matin. Il est debout, il a sa machine à écrire devant lui, ou son crayon avec sa mine de plomb. Il a déjà deux ou trois whisky dans le ventre, et il se met à beugler dans sa chambre. Il n'y a pas d'autre terme. Ses dialogues. Et il est jamais content parce qu'il estime qu'il a pas touché ce qu'il fallait, ce qu'il n'a pas dit ce qu'il fallait avec les mots qu'il fallait. Il déchire, il recommence. Enfin, moi j'ai vu des manuscrits, c'est assez hallucinant le travail qui le permet.
Le nombre de brouillons. Je crois.
Et on voit l'espèce de rage, c'est-à-dire cette volonté, tant qu'il n'a pas trouvé le mot juste, la façon de raconter quelque chose, et notamment dans le dialogue. Moi, je crois que son apport, c'est ça. C'est-à-dire il y a une puissance du dialogue, et ça a totalement transformé la littérature américaine et d'autres littératures aussi. Ces grands auteurs, c'était Turgenev et Tolstoï. Il les cite en permanence. Et puis un autre élément très très important, c'est la peinture. Il a dit de très nombreuses fois, au fond, si je n'avais pas été écrivain, j'aurais été peintre. Et il y a des passages très beaux dans ses livres sur Cézanne. Il adorait Cézanne. Il avait un Paul Klee à la Finca Vigilia.
Oui, il avait une petite.
Oui. Il avait un petit musée personnel. Mais le Paul Klee, c'est très particulier parce que c'est un tableau qu'il a suivi pendant toute sa vie, qu'il a acheté à Paris. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il l'a emporté avec lui un petit peu partout. Et heureusement, quand il a quitté Cuba et qu'il n'a pas pu revenir à Cuba, qu'il est mort aux États-Unis, ce tableau, n'a pas pu être pris par les nouvelles autorités cubaines, puisqu'il l'avait prêté à cette époque-là, un musée qui faisait une exposition Pelclay. Donc il a pu récupérer ce tableau, qui est un tableau acheté à Paris pour les dernières années de sa vie.
Gérard de Cortanze, vous avancez que ce que ses détracteurs ne pardonnent pas à Hemingway, c'est sa morale. Pour vous, comment se manifeste la morale d'Hemingway? Comment se traduit-elle dans ses livres, cette morale?
Alors, c'est-à-dire que ces personnages sont toujours des personnages qui se dépassent, et ils se dépassent notamment dans la défaite. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui n'acceptent jamais ce qu'ils sont en train de vivre, et même jusque dans la mort, jusque dans la défaite, ils vont essayer d'être totalement moraux. C'est-à-dire, voilà, c'est une moralité très, très, très stricte, c'est-à-dire on ne transige pas, on ne fabrique pas, on ne prend pas des chemins détournés, on va droit au but, quitte à y laisser sa vie. D'où son amour, d'ailleurs, totalement immodéré pour la corrida, c'est-à-dire il y a un côté mystique. Il a écrit des pages absolument sublimissimes sur la corrida, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la corrida. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'écrivains espagnols et de spécialistes de la corrida qui estiment que les plus belles pages jamais écrites sur la corrida l'ont été par Hemingway. C'est pas du tout de l'anecdote. C'est pas du tout un touriste qui va à Madrid et qui va applaudir des toreros. Non, pas du tout. Il connaît ça de l'intérieur, et parce qu'il y a un côté qui est très proche de sa vie, de son existence, le sacrifice, le sang, on risque sa vie, les guerres, enfin tout ça est très. Il y a une cohérence en fait. C'est ça qui me touche beaucoup. Il y a une cohérence entre sa vie et sa son écriture et sa façon de raconter sa vie dans ses livres. Parce que alors là, s'il y a une œuvre qui est autobiographique, c'est bien celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre, je suis certain de ce que j'avance, il n'y a aucun livre qui ne soit le fruit d'une réflexion sur quelque chose qu'il a vécu.
En lien avec sa biographie, mais pas forcément une autobiographie.
Non, bien sûr. C'est ça. Mais c'est toujours de cet ordre-là.
Partir de l'expérience vécue et la
déformer. Toujours partir de l'expérience vécue. Dans ses premiers livres, au fond, l'expérience vécue, c'est les cafés de Montparnasse, et notamment la Rotonde. Il y a des pages sublimissimes, méchantes, cruelles sur les écrivains sur cette époque-là, mais c'est parce qu'il a vécu totalement ça. Les pages sur l'Espagne, c'est parce qu'il a vécu la guerre d'Espagne. Il y était. Les pages sur la guerre en Grèce, sur la Turquie, sur l'Italie, il était au Piave, jeune officier de la Croix-Rouge, brancardier, il sait de quoi il parle. Quand il est blessé, il sait de quoi il parle. Alors parfois il en rajoute. C'est vrai qu'il va vous expliquer qu'il a reçu 350 éclats dans la jambe. Alors, c'est peut-être pas 350 éclats, c'est peut-être une soixantaine. N'empêche qu'il les a quand même reçus, qu'il a quand même tiré sur son dos son copain qui est mort à l'arrivée, qui pataugeait dans la boue et dans le sang, et tout ça, c'est de l'expérience vécue. Mais il en fait toujours un objet littéraire, et ça, c'est magnifique.
Vous affirmez que jamais Hemingway ne serait devenu Hemingway sans son passage par le journalisme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais...
Ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, il est journaliste très tôt au Star et à Toronto et au Chicago. C'est très rapide. Tout de suite, il comprend qu'il va utiliser les faits, qu'il va regarder, qu'il va observer. Et toute sa vie, il aura été journaliste. Jusqu'à la fin de sa vie, il écrira encore des reportages sur les guerres, sur les corridas. Sur des choses qui le touchent. Et ça, c'est très, très, très important, je trouve, Si vous voulez, c'est pas un écrivain assis. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent leur texte, au fond, sont des écrivains assis. Ils n'ont pas vécu les choses. Lui les a vécues, et c'est évidemment ce qui donne le formidable, comment dire, la formidable, comment dire, grandeur de son œuvre. C'est-à-dire, on ne doute pas une seconde de la véracité de ce qu'il raconte. Quand il parle d'une corrida, on sent qu'il connaît ça. Mais même lorsqu'il parle de la pêche. Vous voyez, moi, je suis pas du tout un pêcheur. Alors, s'il y a une chose qui m'ennuie, c'est bien la pêche. Mais ce qu'il raconte sur comment pêcher un marlin à Cuba, c'est-à-dire ces types qui se bagarrent pendant des heures avec un poisson qui fait 200 à 300 livres, cette difficulté de le ramener pour éviter que d'abord qu'il se fasse bouffer par le requin, parce que sinon vous ne pêchez plus qu'une arête, il y a un côté, c'est presque une tragédie grecque, quoi. D'ailleurs, il va en faire une tragédie dans le vieil homme et la mer. Eh bien ça, il l'a entièrement vécu. Vous savez que les règles de pêche à Cuba, aujourd'hui, viennent, c'est Hemingway qui les a établies. Il a écrit un livre entier sur la grosseur du filin à utiliser, tel bateau, tel moteur, telle position par rapport au courant du Gulf Stream, telle île. Enfin, c'est complètement hallucinant. Là, il y a une connaissance absolue du sujet, puisqu'il établit des règles de pêche. Mais en même temps, il va truffer ses livres de ses renseignements, et je veux dire, et là, ça devient de littérature. Il a La Dérive, qui est un de mes livres préférés, et bien, dans L'île à la Dérive, on sent bien, il connaît absolument tout du Gulf Stream, de la façon de pêcher, de la végétation, de la vitesse des vents, des tempêtes, des cyclones. C'est totalement vécu. D'ailleurs, il a vécu, évidemment, plusieurs cyclones, parce que quand vous vivez à Cuba, vous avez des cyclones tous les trois jours. Donc, voilà.
Pour vous, ces articles et reportages d'une période allant de 1920 à 1956, que l'on peut trouver réunis dans En ligne, constituent un pur chef-d'œuvre, Gérard de Cortance.
Pour moi, c'est le grand livre d'Hemingway. Oui, c'est deux chefs-d'œuvre. C'est Île à la dérive, qui est un roman inachevé, où le personnage principal, je veux dire, est un double d'Hemingway. Il y a un dialogue avec son chat qui est absolument magnifique. Hemingway adorait les chats. Et En ligne, alors qui regroupe, comme vous l'avez dit, tous ces articles écrits des années 20 aux années 50. Et là, vraiment, vous avez le romancier à l'état brut. On voit de quoi il parle, de quoi il part pour écrire ses romans. Et alors, il y a une modernité dans l'écriture, dans la façon de raconter. C'est très, très cinématographique. Mais il n'y a pas de pathos, il n'y a pas un mot en trop. Vous y êtes totalement en deux phrases. Il ouvre un article avec deux phrases. Vous êtes déjà, pendant la guerre entre les Turcs et les Grecs, vous êtes sur la route qui mène à Paris au moment de la libération. Vous êtes à Madrid à la fin d'une corrida. Enfin, c'est assez époustouflant.
Reporter légendaire et écrivain elle-même, Martha Gellhorn, sa troisième épouse, disait d'Hemingway « C'était un génie, ce mot inconfortable, non tant dans ce qu'il écrivait que dans la manière dont il écrivait, il a libéré notre langue écrite. » Surtout génial dans la manière, êtes-vous d'accord avec Martha Gellhorn ?
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, alors Martha Gellhorn, qui est quelqu'un d'un peu oublié, d'injustement oublié, c'était une immense.
Nous entendrons donc une archive sur
et,
elle.
Et très très grand écrivain. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait à la fois qu'ils se sont plu terriblement et qu'ils se sont déchirés terriblement parce qu'ils étaient trop proches ces deux-là. Ben voilà.
Dans la première partie du programme d'archives de cette nuit, il sera question de Nick Adams. Qui est Nick Adams, le seul personnage, le seul héros que l'on retrouve au fil de l'œuvre de Hemingway?
Ben c'est Hemingway, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la chasse et ce sont des nouvelles absolument magnifiques sur son enfance. Et notamment, il y a quelques nouvelles où il parle d'une indienne qui accouche et comment son père va l'aider à accoucher. Et c'est absolument sublimissime. Il y a un autre passage sublimissime où il explique qu'il est dans ce canoë avec son père qui pagaie. Et il dit au fond, voilà, le jour se lève, On entend les bruits dans la forêt, le clapotement de l'eau. Et là, je suis persuadé, dit-il, que je suis immortel. Parce qu'il y a un bonheur absolument total. Et dans ces journées passées hors de toute civilisation, hors de la ville, il est tout seul avec son père. Et là, c'est merveilleux. Et Nick Adams, c'est ça, c'est lui. Quand vous lisez Nick Adams, c'est évidemment que c'est... Et c'est ça qui rend ce livre très, très touchant et émouvant.
Et à quoi ressemble l'Amérique de Nick Adams ?
Alors, l'Amérique de Nick Adams, c'est celle que Hemingway va fuir. Il a passé la majorité de sa vie hors des États-Unis. Parce qu'il détestait cette Amérique puritaine, de la prohibition, de la morale à outrance, du puritanisme. On en parlera plus tard, mais Hoover qui arrive là-dessus avec le FBI et toutes ces choses-là, il ne supportait pas cette Amérique-là. C'est pour ça qu'il va vivre très tôt, hein, dès les années 20, il vient en France, il va vivre en Italie, il va vivre en Afrique, il retourne en 28-29, c'est Dos Passos qui l'appelle, qui dit viens vivre à Key West. Mais Key West, c'est à peine les États-Unis. Key West, c'est un repère de contrebandiers, de gens qui font du trafic d'alcool.
C'est déjà la route vers Cuba.
Et puis c'est à 130 kilomètres, de Cuba. C'est-à-dire que à partir de Key West, il va faire des incursions pratiquement journalières à Cuba. Il est déjà à Cuba quand il est à Key West. Il va vivre à Cuba une grande partie de sa vie et il va mourir aux États-Unis, mais il aura vécu un an à la fin de sa vie à Ketchum. Donc cette Amérique, vraiment, il la fuit et très très tôt.
Vous avez cité Îles à la dérive et ses chroniques réunies en ligne, mais pour vous, la part la plus novatrice d'Hemingway serait plutôt à chercher du côté de ses nouvelles.
Oui, parce que je trouve que c'est là où l'écriture est la plus rapide, la plus nouvelle. Il y a une façon de raconter des histoires courtes. Bon, vous me direz qu'au fond, ces romans, c'est une suite. On peut considérer que c'est une suite d'histoires courtes en quelque sorte. Je trouve qu'il est certainement beaucoup plus à l'aise dans les histoires courtes qu'en dans les romans plus amples. Mais même si certains de ces romans ne sont pas totalement réussis. De toute façon, c'est quand même des immenses romans. C'est-à-dire que moi, ça m'amuse toujours quand on dit oui, mais alors celui-là, vous savez, c'est peut-être pas le meilleur Hemingway. C'est oui, enfin, quand même. Bon, écoutez, je suis désolé. Il y a des pages sublimissimes. Il y a un souffle. Il y a une reconstitution historique. Il y a des pensées extrêmement profondes. Il y a de la philosophie. Il recourt à l'essai. Il recourt à la poésie, c'était un très grand poète aussi. Donc ce sont vraiment des romans absolument complets. Il y a une sorte de vision totale de la littérature chez Hemingway. Alors même si c'est pas... Je veux bien que Le Vieil et la Mer, c'est peut-être pas son meilleur roman, mais il y a des pages sublimissimes. Et il y a beaucoup d'écrivains qui arrivent à peine à la cheville d'Hemingway et qui se permettent de dire « Oui, Hemingway, vous savez, enfin quand même, toutefois. » Enfin, ça m'a toujours un peu fait rire, ça.
Voyez-vous, comme certains la voient, son œuvre comme traversée par un fort sentiment religieux ?
Oui, alors, bien évidemment, il rejette la religion, mais la religion, comment dire, pratiquée par sa mère, qui était une bigote. Comme, alors, je vais revenir à Frida Kahlo, c'est une de mes obsessions, mais Frida Kahlo aussi avait une mère bigote et rejetait la religion. Mais tous deux, si je peux me permettre ce parallèle, avaient une forme de religiosité qu'ils étaient en prise directe avec une sorte de tout religieux, d'interrogation en fait sur l'être humain, qui fait que oui, il y a vraiment une question autour de la religion chez Hemingway, ça c'est absolument certain, bien sûr.
Pour Mauriac, Hemingway parlait le langage de la grande liberté. Vous y ajoutez de la solitude aussi.
Oui, parce que c'est... Il le dit aussi, ça, un écrivain, c'est d'abord être solitaire. Je le cite pratiquement mot pour mot. Et quand vous écrivez, vous êtes de toute façon totalement seul. Il le dit d'ailleurs, vous êtes face à, et là je le cite, vous êtes face à l'éternité ou à l'absence d'éternité. Magnifique.
Redisons-le, Ernest Hemingway fut un écrivain, c'est bien sûr vous qui écrivez cela, Gérard de Cortanze, et c'est aussi ce que Hemingway voulait que l'on retienne de lui. Je préférerais qu'on analyse mon œuvre plutôt que les infractions de mon existence, vous l'avez dit au début de la nuit. A-t-il tout de même été entendu ou est-il en passe de l'être maintenant que du temps a passé?
Non, je pense qu'il a été entendu. Il a été entendu, il n'est pas en passe de l'être, je crois qu'il a été entendu. C'est un immense écrivain, on le sait, on ne cesse de le rééditer. Ses livres sont réimprimés régulièrement. Enfin, je veux dire que les derniers textes qu'on a retrouvés, qu'on a publiés, ça a donné lieu à un certain nombre d'articles. Enfin, donc ce n'est pas du tout un écrivain oublié comme certains. Vous relisez Hemingway, vous ne dites à aucun moment vraiment c'est daté. Vraiment, c'est d'une modernité. Et d'ailleurs, j'ai parlé plusieurs fois comme ça dans des lycées, enfin d'Hemingway, avec des jeunes gens et des jeunes filles qui avaient eu à étudier pour X raison tel livre d'Hemingway, et tous me disaient, enfin qu'ils avaient adoré lire Hemingway. Donc c'est-à-dire qu'il y a une modernité chez Hemingway qui est quand même le signe des grands écrivains qui arrivent à traverser le temps. Il y a une modernité dans Shakespeare. Et bon, Dieu sait, ces textes ont été écrits il y a longtemps, n'est-ce pas? La société n'est pas la même, mais ça nous parle encore aujourd'hui. Molière nous parle encore aujourd'hui. Donc je crois que Hemingway est vraiment de cette lignée-là.
Merci Gérard de Cortanze. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette première nuit consacrée à Ernest Hemingway. Dans un instant, numéro spécial Ernest Hemingway, homme des bois, par Roger Vrigny en 1961 sur France 3 National. Les aventures de Nick Adams avec Gérard-Georges Lemaire, premier de la série des chemins de la connaissance que Jean Dève consacrait à Hemingway en 1985. Deux nouvelles d'Hemingway, L'Invincible et 50 000 dollars, adaptation de Raymond Rouleau, diffusée la première fois en 1955, puis en 1961, en hommage à l'écrivain tout juste disparu. 88 poèmes avec Roger Asselineau, deuxième de la série des chemins de la connaissance, toujours de Jean Dève, en 1985. Et enfin, six jeunes autour d'un livre, Les neiges du Kilimandjaro, d'Hemingway, une émission de Paul Gravillon en 1970 sur Radio Lyon. Gérard de Cortanze, je vous retrouverai dans un peu plus de 3 heures pour la deuxième partie de cette nuit consacrée à Ernest Hemingway. À tout à l'heure.